Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Cinécast, salut, merci d'avoir cliqué sur cet épisode et l'écouter avec nous. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Aujourd'hui on va parler de pas mal de films, enfin trois, non, c'est pas mal, c'est juste trois. Mais ça fait quand même l'affaire parce que c'est très éclectique une fois de plus. On va parler de Stan et Ollie, Triple Frontier, oui c'est un film Netflix mais on va en parler parce qu'il y a quand même du très très lourd.
Et qu'on l'a vu.
Et le troisième...
Avant tout le monde.
Ah oui c'est ça,
Surtout toi. Oui,
et,
surtout moi.
Oui, pour changer. Et troisième film de la semaine, ce sera Leto, un film qu'on a vu à Cannes l'année passée. Donc c'est de nouveau, hein, Cannes nous surprendra toujours. Je crois qu'on va se taper des films de Cannes de l'année passée après Cannes de cette année. Ça risque peut-être d'arriver. Donc peut-être pas à ce point-là quand même. Et on va commencer tout de suite, sans perdre de temps, par le box-office, parce qu'il y a eu une grosse nouvelle, hein, un peu... attendu, certes, mais Captain Marvel a eu un succès de dingue au box-office, que ce soit en France, en Belgique ou à l'international.
Alors que c'est un film...
Alors que c'est un film qui a des défauts. Voilà, on va nous traiter de sexistes, ils vont dire que c'est un mauvais film, mais non, c'est un film qui a des défauts, clairement. Par rapport à d'autres films Marvel, c'est pas le meilleur. C'est un peu plat, quoi. Enfin, voilà, on en avait parlé. Écoutez la critique, que ce soit sur YouTube ou dans l'épisode de la semaine passée, si vous voulez avoir notre avis sur Captain Marvel. Mais de manière générale, en France, le film a fait 1,2 million d'entrées. Donc c'est énorme, c'est un très bon score. Je ne sais pas très bien comment ça se situe par rapport aux autres Marvel, mais je pense qu'on est plus ou moins dans la même lignée. À part, bien sûr, pour les films comme Avengers.
C'est déjà un des meilleurs démarrages de tous les temps. Je ne sais plus le quantième, mais...
Oui, ils sont dans le top 10.
Dans le monde entier.
Hein, oui, donc... Ça c'est pour le monde entier.
Tout pas dégueu.
D'ailleurs, si on regarde sur le monde entier, en fait, au total, en un week-end, il a fait 479 millions de dollars. Donc,
en un week-end.
En un week-end, donc il a déjà récupéré l'argent investi en un week-end. Donc on va voir ce que ça va donner pendant tout le mois de mars et début avril, avant que Dumbo n'arrive pour Disney, hein, parce qu'ils ont presque tous les mois une grosse production qui sort, comme ça ils sont chronométrés. D'ailleurs, la bande-annonce d'Aladin est sortie, donc si vous êtes curieux de savoir à quoi ça va ressembler, Will Smith en génie bleu, mais pas que, parce que normalement il est aussi en génie comme Will Smith, donc du coup, un peu surprenant. Hein. J'avais dit qu'il allait être que bleu, voilà, un peu déçu. Donc on revient au box-office, Captain Marvel, je le disais, 1,2 million d'entrées en France, ça fait un très gros démarrage. Deuxième film au box-office, c'est Le Mystère Henri Pic. On en avait parlé, c'était un bon film, une bonne petite surprise,
ouais.
Avec Fabrice Luchini. On vous invite à aller écouter. Je l'ai bien dit ?
Oh, tu l'as dit magnifiquement.
Et tu vas sans hésiter en plus.
Ce qui m'étonne, je suis très agréablement surpris, Guillaume.
Fabrice où ? Fabrice qui était vachement bon dans ce film, honnêtement, qui on pouvait croire à la caricature, mais qui a quand même fait une performance qui lui ressemblait, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. Donc, allez également écouter la critique, que ce soit sur YouTube ou sur Cinécast, le podcast. Donc, Le Mystère Henri Pic, 360 000 entrées. Très bon démarrage pour un film français, surtout avec une concurrence pareille. Troisième film, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Il est toujours là, lui.
Mais pas qu'est-ce encore quitté le top 5, c'est triste.
Qu'est-ce qu'on a encore fait ?
Qu'est-ce qu'on a encore fait ? On va pas la faire toutes les semaines.
À deux jours.
Mais on n'en pense pas moins.
C'est Philippe de Chauron, c'est ça ?
Ouais.
Ben voilà. 305 000 entrées pour un total de 6 159 000 entrées au total en France. Donc ça fait toujours un énorme score. Il faut savoir qu'il est même encore plus distribué que Captain Marvel, puisqu'il y a 678 copies.
C'est énorme. Hein.
Contre 539 pour Captain Marvel, donc c'est encore plus distribué que Captain Marvel. Quatrième film, c'est Le Chant du Loup. On en avait parlé également récemment. Très bon film français, en tout cas un beau pari de faire un film avec un tel budget sur un sous-marin nucléaire français avec Omar Sy entre autres, Mathieu Kassovitz, enfin, un très beau casting. Là, 235 000 entrées en plus, donc il a dépassé le million d'entrées en France.
Mérité.
C'est mérité, c'est bravo. Et dernier film du top 5, c'est Ralph 2.0 ou Ralph Breaks the Internet, si vous préférez la version en anglais. 220 000 entrées pour dépasser du coup le 2 millions d'entrées. C'est tout à fait normal pour un film animé. Il n'y en avait pas beaucoup en plus ces temps-ci, donc c'est mérité également. Passons tout de suite au premier film de la semaine.
Oui.
Film, du coup, bah, dans ce cas-ci, c'est un film américain, canadien, Royaume-Uni, un peu un mélange des trois, un film anglo-saxon, c'est sûr. Un film qui s'appelle Stan et Holly, avec un beau duo d'acteurs, John C. Reilly et Steve Coogan. Steve Coogan qui est plus connu pour ses rôles du côté de l'Angleterre. Il a fait pas mal de... films, tu sais pas si tu l'as vu.
Je t'écoute, j'attendais la suite de ta phrase.
Non, il a fait pas mal de films, surtout anglais, avec son humour bien particulier. Et puis John C. Reilly qui...
Il est un peu poche, hein, souvent, Steve Coogan.
Ah oui, très poche. Très souvent, ce même genre de rôle. Je sais pas si c'est... Je vais pas m'aventurer là-dedans, mais si je vais m'aventurer là-dedans. Je pense que c'est lui, Steve Coogan, qui fait des films tous les deux ans, là, genre Mon Voyage à Rome ou des trucs comme ça.
C'est possible. Je trouve que j'ai un peu perdu de vue.
Il est dans une mini, il est dans
sa filmographie.
Tu vois, sud de la France, Italie, trucs comme ça. Et en fait, non, pendant tout le film, t'as pas l'impression que c'est un film. Il boit du vin avec un pote et il discute au restaurant. Quoi. C'est un peu ça le film. Tu te dis, tiens, en fait, il paye ses vacances.
Mais c'est quoi le titre
Il y a un truc en Italie, ça, je sais. Voyage en Italie ou un truc comme ça. Trip to Italy.
Trip to Spain.
Le Trip to Spain, il y en a un. Et Trip to Italy. Il y en a deux.
Ah oui, Trip to Italy. Ok, d'accord. Ah mon dieu. Ah oui,
c'est des films que à chaque fois
en 2014 et en 2017.
Bah voilà, il fait tous les 3 ans un petit trip quelque part et il discute en buvant du vin avec des gens. Voilà, c'est sympa. Non, c'est
pourquoi pas.
C'est un peu british, un peu bizarre. Il se passe pas grand chose, mais voilà, pourquoi pas. C'est le film d'après-midi pluvieuse. Donc Stan et Holly. Alors tu vas m'en parler un petit peu plus. Forcément, on a cru comprendre de quoi parlait ce film-là par son poster, mais aussi par son synopsis, puisqu'il va être question ici d'un biopic qui se concentre sur Stan Laurel et Olivier Hardy, qu'on ne présente plus.
Mais oui, on a tous vu des... Ils ont fait énormément de films, mais effectivement, on a tous déjà vu des sketchs, des segments, des vidéos de Laurel et Hardy. En tout cas, moi, je me souviens que petit, j'en ai vu quand même plusieurs.
Oui.
Alors, je pense pas honnêtement avoir regardé des films entiers de Laurel et Hardy. J'en ai pas le souvenir en tout cas, mais je pense pas. Mais voilà, Laurel et Hardy, tout le monde connaît, même les plus jeunes, je pense. Donc c'est quelque chose qui est présent dans
la culture, dans la cinéma, culture générale aussi.
Générale, bien sûr, mais voilà, qui est accessible à tous. Parce que pour peu que t'aies des parents un peu cinéphiles ou voilà, qui t'as peut-être vu ça petit, quoi.
Oui, ou à Cinémathèque ou quoi. On a tous vu des images de films de Laurel et Hardy. Je pense que c'est très clair.
Ouais.
On a tous la représentation de ces deux personnages en tête. Hein. Laurel et Hardy, le gros, le mince.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'eux. Et ce qui est très bien déjà dans ce film, c'est qu'ils ne parlent pas d'eux à leur apogée. Ils parlent d'eux après.
C'est ça, donc en 1953, c'est un peu vers la fin de leur carrière, en fait, un déclin de popularité.
C'est ça, en fait, le cinéma muet, c'est plus du tout à la page. Hein, donc, il y a déjà du cinéma de parlant depuis 26 ans, en 53.
Ouais.
Donc, voilà, c'est plus trop les stars du moment. Ils sont vieillissants, hein, déjà en fin de cinquantaine, début de soixantaine. Et ils vont se faire une petite tournée de théâtre en Angleterre.
Ok, ce qui explique, oui, tout à fait.
Il y a déjà eu des dissensions entre eux à un moment dans leur carrière, hein, mm-hmm. quand ils étaient encore des stars hollywoodiennes. Et on va dire que même s'ils sont toujours très amis, il y aura quand même des vieilles rancœurs qui vont parfois un peu refaire surface à la fin de leur vie. Ce qui va rendre cette tournée un peu plus intéressante, parce que pour eux, ils sont... Si, au fond, ils savent qu'ils ne sont plus des méga-stars. Mais ils vont quand même prendre la réalité dans la gueule et constater qu'en fait, ils ne sont pas dans le super gros théâtre de la ville et ce n'est pas sold out. Donc, ça rend la chose un peu compliquée.
C'est pas la même chose de savoir que ton DVD, ta cassette ou ton film vend moins de tickets que d'être dans une salle où t'as qu'à tondu.
Mais si tu crois être à Bercy et puis que finalement tu te retrouves à la salle Playel avec 5 personnes, voilà. C'est un peu ça l'idée.
Tu fais petite référence pour nos amis français qui nous écoutent nombreux.
Oui, alors je la refais pour les Belges. Oui, c'est comme si vous pensiez être au Sport Palace et puis que vous vous retrouviez à l'orangerie au Cirque Botanique. Royal. Ou au Cirque Royal. Et encore, même pas rempli. Hein. Même
pas rempli, tout à fait.
Et donc c'est un peu ça qui arrive à nos bons vieux Stan.
Et Oli, dans ce cas-ci.
Mais oui, Stan Laurel et Oliver Hardy.
Et donc du coup, le film parle de quoi ? Est-ce qu'il parle du fait qu'ils vont essayer de devenir populaires à nouveau ? Ou bien au contraire, du déclin tout simplement, et de dire voilà, on n'est plus populaires, et c'est un peu une réflexion. C'est quoi le but du film ?
Ça parle de plusieurs choses, effectivement, de leur déclin, même si dans ce déclin et dans cette tournée, ils vont quand même retrouver un moment un peu de grâce, si je puis dire, parce qu'il y a un moment où ils vont comprendre qu'il faut quand même un peu mettre le paquet sur la promo, parce que sinon, les places, ça ne va pas se vendre tout seul. Donc, ils sont à nouveau un peu visibles dans le paysage anglais, si je puis dire. Ce qui fait que leur tournée va quand même connaître un certain succès. Donc, clairement, ça parle de tout cet aspect professionnel qui est quand même un peu... qui se passe bien, mais qui est compliqué, parce qu'ils ont encore un projet de film qu'ils veulent faire absolument ensemble. Et qui sont en train d'écrire à ce moment-là, pendant cette tournée. Et il y a le côté personnel aussi, parce que comme je disais, il y a des vieilles rancœurs qui sont là, il y a la collaboration, elle n'est plus toujours tip-top. Il y a leurs épouses aussi qui vont venir, donc ça va créer parfois des moments de tension. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects que le film aborde, ce côté professionnel, vieille gloire sur le déclin, et le côté personnel avec leur relation, tout simplement, leur vie de famille, mais leur relation presque de couple entre deux.
Entre partenaires, associés.
Ben oui, parce qu'il y a des choses... ils ont eu une vie bien remplie, avec des succès, moins de succès, des grands moments de bonheur, des moments plus compliqués, et quand t'arrives en fin de vie et que tu fais un peu le bilan de tout ça, c'est pas toujours facile. Surtout que, alors maintenant, je sais jamais lequel est lequel. Le gros, je crois que c'est Oli. Il n'y a plus une santé optimale non plus. Hein.
qu'on se le dise tout de suite.
Voilà. Bref, c'est pas toujours très sain. Et il n'a pas une vie saine et il ne fait rien pour faire en sorte qu'elle soit plus saine. Donc, quand tu arrives à 60 ans et que tu fais, à mon avis, un bon 150 kilos, voire plus, tu ne peux plus faire autant de choses sur scène que ce que tu faisais avant. Tu
peux faire des spectacles d'une heure et demie. Quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est compliqué.
Donc, il y a toutes ces choses qui sont mêlées,
D'accord. Donc, on fait une plongée vraiment dans le milieu du showbiz des années 50, en pleine révolution, en suivant ces deux castards qui ont vécu un peu tout.
C'est exactement ça.
Et qui, maintenant, font le bilan.
Alors, le film ne démarre pas directement là-dessus. On va dire qu'il y a quoi, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais je pense que c'est moins que ça, sur la période où ils ont du succès. Mais on voit un peu... l'origine de certaines tensions entre
eux. Des querelles.
Voilà, certaines querelles. Et donc, cette intro permet de contextualiser ensuite tout ce qui va se passer. Donc, oui. je trouve que d'un point de vue structure, c'est très intelligent. Ça fonctionne très, très bien parce que voilà, tu as ce petit contexte rapide et puis tu abordes une partie moins évidente de deux stars. Parce qu'en général, on le dit souvent, les biopics, il faut qu'il y ait un angle. Oui. Tu ne peux pas aborder la vie ou quasiment toute la vie d'un personnage, sinon ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas cinématographique du tout.
C'est souvent le début de la carrière, les problèmes, et puis hop,
un
Star is Born, quoi. C'est plus ça.
C'est souvent l'ascension. Oui. Là, on a le contre-pied, en fait, et c'est ça qui est très intéressant. C'est
original, du coup. Oui.
Parce qu'il y a ces stars qu'on connaît tous. Ils montrent quelques sketchs aussi, certains de leurs sketchs. Qui font sur scène, on les voit, il n'y a rien à faire. 70 ans, 70 ans après, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc,
c'est intemporel. Ce qu'ils font,
c'est intemporel et c'est ça qui est génial. Et puis, Steve Coogan et John C. Reilly, ils sont fabuleux.
Ah, c'est la question, forcément, parce que jouer Stan, Laurel et Hardy, c'est quand même un gros challenge de dire on va prendre des rôles pareils. Enfin, je pense que pour un acteur, c'est quand même se tirer une balle dans le pied d'accepter un rôle pareil.
C'est compliqué.
Donc qu'ils y parviennent.
Mais il y a ce truc génial qu'on disait, c'est que c'est pas la période phare des deux. Donc c'est peut-être pas Laurel et Hardy que les gens connaissent plus. C'est d'autres personnalités. De... Ouais, donc, t'as un petit quelque chose qui est un peu neuf d'une certaine façon dans l'approche et donc dans les performances des comédiens qui sont vraiment très très bons. Donc, c'était un vrai plaisir cette année, Oli, vraiment.
Mais écoute. Et d'un point de vue de réalisation, est-ce qu'il y avait quelque chose à dire de particulier ou bien ça c'est classique de manière
générale ? Ça c'est classique, pas grand chose à dire dessus, que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose de très très classique. Il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de grandes scènes où tu sens un peu d'originalité ou autre.
Ouais.
C'est, il fait le job, il le fait bien, voilà.
Bon biopic. C'est plus dramatique ?
Très bon biopic.
Ou comique ?
Parce que bon, c'est quand même très dramatique,
ça
mais
un truc drôle, quoi,
on parle de Laurel et Hardy, quoi, donc ouais. Forcément, il y a beaucoup d'humour dedans.
Quelques petits sourires pendant le film, mais pas, on n'est pas là non plus pour tomber par terre toutes les deux.
Bon, il y a des moments de rire quand même, notamment quand ils font certains sketchs, mais non, effectivement, c'est pas la grande esclaffade en permanence.
C'est clair. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec la note, déjà de 1, de Stanley Oli, avant d'enchaîner ?
Oui. Un bon 2 étoiles.
2 étoiles pour Stanley Oli.
Oui, oui. Bah, un bon 2 étoiles.
2 étoiles pour un duo, c'est formidable. On va pas recommencer comme la semaine passée, on fait que des 2 étoiles. Hein, je veux dire, là, c'est.
Non.
Stanley Oli, 2 étoiles du coup. On passe tout de suite à la première news. La news, ça concerne James Bond. On en avait parlé un petit peu. Hein. Le film était postposé, etc. Rami Malek dans le rôle du méchant, éventuellement. Et là, en fait, on vient d'avoir une nouvelle comme quoi la scène d'ouverture du film va se dérouler en Italie. Alors j'ai envie de te poser la question, quelle est la scène d'ouverture d'un film James Bond que tu as en tête et que tu as apprécié ? Tu vas me répondre Spectre parce que c'est la plus récente. Et c'était quand même un plan séquence assez bien foutu quand même. Hein, lors de la fête des morts, là. Comment l'expliquer cette fête ?
Le jour des morts, Dia de la Muerte.
Le jour des morts, tout à fait. On s'en rappelle bien.
Oui, je crois que c'est un peu celle que je te dirais parce que j'ai un peu honte, mais ça fait très longtemps que j'ai pas regardé des James Bond. Chaque fois, je me dis, ouais, je vais me faire un marathon James Bond. Et puis,
marathon, voilà. Carrément.
Ouais,
de temps en temps.
Parce qu'il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas vu, je pense, dans les plus vieux. Donc, je me dis, voilà, ce serait bien de faire un peu un petit marathon James Bond et de voir. De les revoir un peu dans l'ordre chronologique, tu vois, histoire de voir l'évolution. Et voilà, très franchement, là, comme ça, j'ai pas de grands souvenirs de scènes. Il me semble que Casino Royale s'est démarré où il tue la personne. C'était assez inhabituel par rapport aux autres James Bond.
Dans une salle de bain ou un truc
comme
ça. C'était
en noir et blanc, ouais, tu vois qu'il tue le gars et qu'il devient vraiment James Bond à ce moment-là.
Ouais, tout à fait, son premier meurtre.
Parce que je me souviens d'une course-poursuite là, avec les grues, etc. Mais ça, je pense que c'était déjà un peu plus loin dans le film. Ouais.
C'est la séquence d'après. Enfin, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est oui, elle est très bien cette séquence en effet avec les grues qui était vraiment mémorable.
Mais clairement, je pense que dans les dernières années, c'est celle de Spectre qui est la meilleure. Bah, elle est incroyable. C'est la meilleure scène du film.
Esthétiquement, voilà, il y a un travail autour de cette scène qui est plus abouti que dans d'autres James Bond qui sont parfois plus classiques dans l'approche. C'est-à-dire que là, son frein plan séquence qui a duré, je sais pas moi.
C'est toute une gymnastique.
Hein, pratiquement 7 minutes, hein, ce plan séquence.
Ouais, plus. Il est pas loin de 10 minutes, je pense.
Donc voilà. C'est pas la même chose que tourner, mais bon, il y en a beaucoup. Ils commencent souvent avec un bang. Hein. Je pense à. Quantum of Solace se terminait par une course-poursuite, je me rappelle bien. Et donc, du coup, le suivant démarrait également par une course-poursuite immédiatement. Bref. Donc voilà. Non, c'était Quantum of Solace qui démarrait par une course-poursuite parce que Casino Royale s'est terminé.
Terminé avec le gars de.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Donc voilà, oui, il y en a eu plusieurs qui est intéressant, mais dans ce cas-ci, la scène d'ouverture se déroulera en Italie. Alors où précisément ? Dans la ville de Matera. Alors je sais pas si tu connais la ville de Matera.
Alors j'ai déjà entendu parler de nom, effectivement, pour je pense des sites troglodytiques.
Exactement. Donc il y a des maisons qui sont encastrées dans la montagne, en gros, dans la roche. Et cette année-ci, en fait, c'est la capitale européenne de la culture.
Ça doit être aussi pour ça que j'en ai entendu parler.
À mon avis. Donc du coup.
Parce que c'est pas la ville italienne la plus connue, qu'on se le dise. Hein.
Bah non, mais justement, c'est peut-être l'occasion de mettre un peu dans le spotlight et de nous montrer quelque chose d'assez esthétique.
Ils ont encore bien joué leur coup l'Irital.
Voilà, surtout, ça les intéresse d'avoir un James Bond qui vient se tourner lorsqu'ils sont la capitale européenne de la culture. Il y a eu Mons qui était la capitale européenne de la culture il y a quelques années, ça aurait été une autre gueule, hein, pendant le doudou.
Daniel dans la belle gare de Mons. Ah, quelle gare ?
Non. Pendant le doudou.
Pardon, c'est gratuit.
ça, ça peut...
truc... Dans ta face, Elio.
Le truc pas du tout esthétique. Pas de politique ici. Le truc pas du tout esthétique avec ce gros dragon, vous avez tout le monde qui était attrapé sa queue. Soit. C'est le truc pas du tout James Bond. Oui, pour ceux qui connaissent pas le doudou, bah, renseignez-vous. Voilà. On va pas commencer à parler de doudou maintenant.
Non.
Mais voilà. Donc oui, pas beaucoup plus d'informations par rapport au tournage, en tout cas du film. Si on sait déjà que c'est Cary Fukunaga qui est derrière la caméra. Et que,
on en parle presque tous les jours un petit peu de James Bond, j'ai l'impression. Enfin, toute la semaine.
Oui, c'est vrai, il est assez doux. Ben Whishaw et Naomi Harris qui jouent dans.
Qui sont de retour.
Qui sont de retour. Donc, ça, c'est l'information. They're back again. Et la sortie est prévue le 8 avril 2020. Ça, c'est pour les infos cinéma. Il y en a encore une hein, qui nous vient des pays anglo-saxons. Puisque, on en avait parlé, je pense que c'est la semaine passée aussi, James Gunn est en train de travailler sur un Suicide Squad.
Oui, ça on en a parlé, effectivement.
Un reboot, un remake, je ne sais pas très bien, personne ne sait. Et donc, il est en train de refaire le casting. Si Harley Quinn était plutôt sûr il y a quelques semaines, apparemment maintenant, ce n'est plus le cas. Harley Quinn est dans le flou,
ah.
Donc on attend de voir ce qui va se passer.
Ah oui, Harley Quinn aussi, parce que le Smith, on le savait déjà.
Harley Quinn est dans le flou, donc le personnage d'Harley Quinn, est-ce qu'il sera dans celui-ci, oui ou non, ça on ne sait pas. Il a déjà dit qu'il voulait garder Margot Robbie, donc ça, ce n'est pas un problème, mais on ne sait pas si elle va être dans celui-ci. Par contre, il veut absolument Deadshot dans celui-ci. Le problème, c'est que Will Smith est occupé sur Aladdin 2, je ne sais pas ce qu'il fait. Et donc, très concrètement...
À la 2.
À la 2, merde, non. À la 3. Ah oui, pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà, ils veulent prendre Deadshot, mais pas Will Smith. Et donc, du coup, c'est Idris Elba qui va reprendre le personnage de Deadshot pour Suicide Squad.
Faut qu'on parle d'Idris Elba, quand même. Cet acteur, il est incroyable.
Oui.
Il est... Non, mais attends. Il est incroyable parce que c'est un très, très bon acteur.
Mm-hmm.
Mais il fait des choix de carrière pourrave. Hein. C'était quoi le dernier bon film d'Idris Elba?
Il a le même agent que Will Smith, je pense, ces derniers temps.
Alors, il y avait ce truc de romance là, avec Kate Winslet où il se crachait dans les montagnes. C'était nul. Dark Tower, c'était nul. Il était dans Molly's Game, il était pas trop mal. Mais bon, c'était pas ouf. Bon, il a son rôle dans Marvel, mais maintenant, je crois que c'est fini, là, non?
Bah, je pense
Heimdall, il n'était pas mort, je ne sais plus. Il a fait Bastidé, c'était quand même la bonne grosse daube. Il a fait Star Trek, le dernier, là, c'était pas terrible non plus.
C'est Beyond.
Bon, il a fait une voix dans Utopie, dans le monde de Dory, c'est ses meilleurs films, je crois.
Ça, c'est bien, ça.
Il a fait Gunman, de Pierre Morel, c'était une bonne daube aussi. Beast of No Nation, ok, c'était peut-être un de ses meilleurs. Mais quand tu regardes globalement sa carrière... Autant lui il est bon, mais autant ses choix de films, oh, c'est une catastrophe. Hein.
C'est clair qu'on n'aurait pas dit ça il y a quelques années de Idris Elba. Hein. Tout le monde était là, ouais, Idris Elba c'est la prochaine grande star, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à le voir briller sur le grand écran.
Bah, c'est compliqué.
Et reprendre un rôle qui était tenu par Will Smith, qui n'est déjà pas l'acteur qui est le plus bankable aujourd'hui, c'est pas spécialement la meilleure idée non plus. Bon,
non.
Maintenant c'est James Gunn, il a déjà fait des miracles.
James Gunn.
Parlons d'autre chose, hein, s'il te plaît bien.
On de quoi est-ce que tu veux parler?
Un truc un peu dramatique, etc.
Là, et à cette heure-là, on en finit dans de bonnes et mauvaises nouvelles. Hein,
mais c'est pas grave, au pire, c'est une émission...
émission courte.
Take away aujourd'hui.
Ouh, take away.
Mon Dieu. Parlons de Triple Frontier.
Toudoum.
Toudoum. C'est toujours un... Enfin, c'est pas toujours. C'est un film Netflix dans ce cas-ci, mais ils ont mis la main sur un film qui aurait pu être bankable au cinéma, hein, je veux dire. C'est fait par...
C'est un projet de très 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 longue date. Je crois que le projet il existe depuis 20 ans ou presque.
C'est de J.C. Chandor.
J.C.
J.C. Chandor. Ouais. Jesus Christ Chandor. Avec Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam. Donc rien que ça, ça commence bien. Je sais que le casting continue, mais déjà ce beau trio-là, ça fait déjà l'affaire, j'ai envie de dire.
Oui, il y a Pedro Pascal.
Pedro Pascal encore.
Oscar Isaac.
Oui, ça oui.
Gareth Edlund. Voilà, c'est les bras cassés.
Tout à fait. Et là, c'est le film qui raconte l'histoire d'anciens soldats de forces spéciales qui, concrètement, ont travaillé toute leur vie dans les forces spéciales, mais ne roulent pas sur l'or.
Ben oui.
Et donc, ils ont une petite idée, c'est qu'ils vont aller piller un baron de la drogue dans l'Amérique du Sud.
Ouais.
C'est une idée pas du tout risquée, quoi. C'est une mission.
Ben, y a un des gars qui bosse pour une société militaire privée. Qui va être mis au courant de l'adresse d'un baron de la drogue Et donc il se dit, enfin, c'est pas simplement qu'il est au courant de l'adresse du gars, mais c'est qu'il sait que ce gars cache beaucoup de cash.
Attention, il cache beaucoup de cash aussi.
Il cache beaucoup de liquide, de l'argent, du blé, du flouze,
de l'oseille, de dollars.
Et voilà. Et donc, mais de manière de la monnaie trébuchante, sonnante et trébuchante. Mmh. Voilà.
Sachant ça.
Donc, c'est pas juste, il a beaucoup d'argent sur son compte en banque, non. Il a beaucoup d'argent dans sa maison. Et donc, tu te dis, je suis soldat,
ni vu ni
connu. Plutôt bon. Je vais appeler Johnny, oui. Brian, Jason.
Et visiblement, ils ne font pas la méthode douce, en mode, je suis invité à une cocktail party et je vais vite aller prendre de l'argent.
Ah non, non, c'est pas Ocean's Eleven ici.
C'est pas le genre, oui, c'est ça.
C'est on casse tout et
on rentre par la jungle.
C'est pas Expendables non plus, mais c'est un peu plus subtil. Ils font pas juste défoncer le mur et faire tout péter et y aller. Mais voilà.
C'est l'équipe de force spéciale, quoi.
Ils vont faire sonner les armes.
GIGN, quoi. Ok.
Bam, bam. Tu vois, ça va. Ça va tirer.
Ça dénote. Oui, ok. Donc.
Et donc, bah.
Mais JC Shendor,
ils vont prendre leur petit barluchon et aller en Amérique du Sud. Et puis...
Dans la jungle.
Ben oui.
Deuxième fois que Charlie Hunnam est dans la jungle.
Welcome to the jungle.
Pour d'autres raisons.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il était dans...
The Lost City of Z.
Exactement.
C'est un très bon film. Excellent. C'est passé un peu inaperçu au cinéma.
Ouais. Ça peut passer. Pourtant, il était dans beaucoup de tops de fin d'année.
Ouais, ouais. Très très bon film. À rattraper. Ouais.
Et donc, il va y avoir le casse. Puis il va falloir partir de là. Voilà. Pas plus, parce que sinon.
C'est un peu tout, hein, c'est ça le film.
Mais c'est un film d'action, okay. Donc qu'on se le dise. C'est pas.
On n'a pas de problèmes familiaux avec un drame qui se joue, quoi que ce soit. C'est des mecs dans un hélicoptère. Et ils vont dans la jungle.
Tu refais un peu l'hélicoptère ?
Je peux pas le faire du tout. Ils vont dans la jungle et ils sont là, ils mettent de la peinture sur leur visage et ils vont dans la boue, quoi. C'est un peu ça.
C'est presque ça.
C'est un peu ça.
Pas tout à fait, c'est pas Predator non plus. Hein. Mais,
Et puis il y a un type qui dit un American ! Et puis voilà, ça tire, quoi. C'est un peu ça.
C'est presque ça, ouais.
Presque ça aussi. Ok. On a résumé le film.
Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, d'accord.
Mais dans l'ensemble, c'est ça, dans les grandes lignes. Ce qui est plutôt surprenant de la part de Jesse Chandler, parce que c'est à lui qu'on doit Margin Call. C'est pas ce film sur la. Attends. Ouais. C'est ce film sur la finance, là, c'était très compliqué, avec un casting de malade.
Oui.
Enfin, soit, très très bon film, c'était son premier. Puis il a fait All Is Lost avec Robert Redford, qui était tout seul sur un bateau.
Ah ouais, tout à fait.
Tu vois. Et puis il a fait A Most Violent Year avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Et donc voilà son quatrième, Triple Frontier. Et alors ce titre, Triple Frontier, ça vient de cette région d'Amérique du Sud, formée par les trois frontières du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine. Hein, tu sais, il y a des fleuves qui se rejoignent. Il y a les fameuses chutes d'Iguaçu, notamment, qu'on voit dans le film Mission, entre autres. Ils ont Indiana Jones 4. Ah, ce film n'existe pas, mais si vous le trouvez quand même...
J'espère qu'on les voit ici aussi.
Ben non.
À quoi ?
J'étais un peu déçu. Enfin, j'étais très déçu.
Ils n'ont même pas été sur
iStock Photo. Parce que ça, c'est le gros reproche que j'ai au film, c'est que j'espérais que ce soit un peu plus géopolitique d'une certaine façon, qu'il exploite un peu plus son...
Le triangle.
Bah, son titre et le fait qu'il joue sur des pays qui sont très proches les uns des autres. Parce que vraiment, moi, pour avoir déjà été dans cette région-là, effectivement... Tu passes la frontière en très peu de temps. Ça dépend s'il y a du monde ou pas. Mais voilà, en quelques kilomètres, tu es dans un pays et puis dans un autre, si tu veux. Donc, c'est une région qui est très, très belle et très impressionnante. Et voilà, j'aurais espéré un peu plus de ces aspects-là. Un peu géopolitique, ça aurait été assez intéressant.
Oui.
Alors, il ne fallait pas faire un truc vraiment purement géopolitique.
Non, mais
on reste dans un film d'action.
Un incident diplomatique qui se passe à cet endroit-là, c'est quand même...
Mais avoir un peu plus d'aspects frontières, ça aurait été sympa. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, au final. Et ici, il y en a un, mais il se déroule un peu plus à l'ouest. Tu sais, ces grandes montagnes, là. Grandes chaînes de montagnes à l'ouest de l'Amérique latine.
Mm.
Cordillère, quelque chose.
Cordillère des...
Je sais pas. Ils vont essayer de la passer.
Les Landes, c'est ça, non ?
Ouais, presque.
Ouais, ok, presque.
Pas la même région du monde. Ça.
J'y étais, mais c'est un peu haut quand même. C'est pas,
ouais, bah oui, pareil. Mais voilà, ils vont essayer de passer cette chaîne de montagnes, la Cordillère des Andes, en hélico. C'est compliqué. Parce qu'un hélico.
C'est très haut, la Cordillère des Andes, c'est 5
000 mètres. Un hélico à 5 000 mètres, c'est pas facile.
En fait, c'est ça le climax du film.
Ça va créer des problèmes. Okay. Bon, c'est un des incidents du film. Okay. Mais voilà, donc j'aurais aimé un peu plus ce truc Argentine, Brésil, Paraguay, alors, tu vois.
La question que vous vous posez tous, sans doute à la maison, c'est pourquoi sur Netflix ? Est-ce qu'il y a un truc ? Est-ce que le film est pas terrible ? Est-ce que c'est le genre de truc série B qu'on met pas au cinéma mais qu'on met sur Netflix ? Ou au contraire, c'est Netflix qui a été pioché un film qui est de qualité avec un grand casting et qui veulent faire un coup marketing assez, assez fort ?
Alors, ils produisent le film de A à Z. Hein. C'est une production, c'est une vraie production Netflix. Et je pense qu'ils ont été piochés dans cette liste de projets qui essaient d'être montés depuis des années. À la base, c'était un projet de Catherine Bigelow. Il y avait notamment Tom Hanks qui était attaché au film.
Ah oui, donc ça remonte à longtemps. Quoi, hein. ça...
Ouais, même jusqu'il y a encore 10 ans, c'était le cas. Hein. Donc,
D'accord.
Et puis voilà, on ne sait plus trop ce que le film est. C'est la fameuse, ce que le projet est devenu.
La fameuse blacklist, quoi.
Alors, je ne sais pas s'il était sur la blacklist, mais... Mais voilà, c'est un projet qui est resté sous les radars de certains et... Et du coup, Jesse Shender a eu la chance de pouvoir le faire.
Approcher Netflix.
Avec un très bon casting aussi.
Efficace, est-ce qu'il fonctionne ce trio ?
Ben ouais, parce que. Ben, je vais redire les noms, mais t'as Oscar Isaac, Pedro Pascal. Donc Pedro Pascal, c'est l'acteur chilien, ouais. Star de. Enfin. Il a pas fait long feu dans Game of Thrones, mais.
Non.
Mais on l'a vu quand même.
On s'en rappelle en tout cas.
Ouais, lui, il n'y a vu que du feu. Enfin, soit.
Oh, ça fait référence pour tous les fans d'ailleurs.
Petite référence.
Porte d'annonce.
Les vrais comprendront.
Tout à fait.
Gareth Edlund, qui. On le voit de temps en temps, il est toujours sympa. Charlie Hunnam, j'adore Charlie Hunnam.
Et Ben ?
Grand fan de Sons of Anarchy, personnellement. Donc.
J'ai pas du roi Arthur.
Beaucoup Charlie.
Pas du roi Arthur.
Non.
Un petit peu moins.
Lost City of Z aussi. Dans Hooligan, il était bien aussi. C'était un de ses premiers films. Et Ben Affleck, très bien aussi. Ben oui, alors je pense qu'il a lâché le. Alors je sais qu'il a lâché le projet à un moment, mais je sais pas si c'était avant la fin du tournage ou après.
C'est quoi, dû à des problèmes de. Ces problèmes qu'il a eu ou dû à autre chose ? Tu sais plus.
Mais je ne sais pas. Mais il y a eu un truc à un moment avec Ben Affleck. Donc.
Parfois Ben Affleck, j'ai l'impression qu'il fait son Bruce Willis, tu vois. Il est sur le tournage, mais il joue pas vraiment, quoi, tu vois.
Ah, ici, il fait quelqu'un d'un peu renfrénié, tu vois. Donc,
okay, bah, donc
je ne sais même pas ce que je viens de dire.
Renfrénié.
Ouais.
Renfermé, peut-être.
Renfermé sur lui. Voilà. Voilà, fatigue.
Si en plus, c'est moi qui te corrige.
Ouais, ouais.
C'est très compliqué.
Où va ce monde ?
Renfermé, tout à fait.
Oui, il est très renfermé sur lui-même, donc...
Il est assez muet, quoi.
On n'a plus un asthme, ce que je viens de dire. Mais oui. Et donc, non, il est pas muet, mais il la joue Low Emotions, tu vois.
Il a joué Ryan Gosling.
Il la joue... Ouais, mono-expression.
Ok, très bien.
Mais ce qui se comprend, tu vois, parce que déjà, il joue un gars qui n'est pas hyper emballé par le projet de base. Et puis, moi, quand tu vois le paquet de pognon qu'il y a à la clé, il est convaincu. Mais
pas très compliqué.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui est un peu, parfois, pas nécessaire avec ce genre de film. Mais tu sens qu'ils se sentent un peu obligés de le faire. C'est de faire genre, ouais, non, je vais pas te suivre. Ça a l'air très casse-gueule, ton projet, hein, tu vois.
Okay.
Mais évidemment qu'ils vont le faire, parce que sinon le film n'a pas d'intérêt.
C'est ça. En fait, sinon on va pas le faire.
Donc, tu vois et les gars qui hésitent. Et puis,
stop, believe.
Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que Triple Frontier est disponible sur Netflix à partir de ce mercredi 13.
C'est mercredi ou vendredi ?
Non, mercredi, je pense. Ou le 16 ? Non, je crois que c'est mercredi.
Le 13. 13 mars.
Je crois que c'est le 13.
C'est demain.
Donc aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui vous écouterez.
Bah,
je ne sais pas quand tu mettras ça en ligne. Soit aujourd'hui, demain, le mardi, peu importe.
Toujours, mais
peu importe.
Ça dépend quand tu l'écoutes.
Peu importe.
C'est ça.
Oui, on est mardi, hein, déjà.
On est mardi.
Ouais, parce que je... Mardi soir, voilà.
Mardi soir. Donc, bien soir. Hein.
Ouais, bien soir. Là.
Bien soir.
Donc, okay. Ça sort aujourd'hui sur Netflix.
Ça sort sur Netflix.
Enjoy. C'est très bien. C'est très cool, franchement. J'en attendais peut-être un petit peu plus. Mais j'ai pris mon pied, j'ai passé un bon moment. J'adore toujours autant Jesse Chandler parce que, voilà, même dans un film d'action, il montre qu'il a de bonnes idées, qu'il sait filmer. Les personnages sont vraiment chouettes. Je vais pas me lancer dans une analyse de la personnalité de chacun, mais il y a de quoi faire parce que c'est intéressant. C'est vrai, c'est un film de crise en fait. Tu vois que tous les mecs, ils sont en crise dans leur vie, leur opération, ça va être la crise aussi. Oui. Donc voilà, on peut faire une analyse un peu détaillée et un peu plus fine que simplement dire c'est un film d'action, ça va tirer dans tous les sens, et voilà. Bref, j'ai aimé. Bref, allez-y. Et regardez-le sur Netflix.
Triple Frontier, c'est 3 étoiles ou c'est... Non. 2.
Si, je pourrais donner 3.
Carrément.
Mais alors, ça veut dire que j'ai été un peu méchant avec Stagnoli. Ouais. En fait, je pourrais donner 3 étoiles à Stagnoli aussi.
Il allez, hop, ouais, mais il faut que... dans cet épisode.
Ouais, twist. Non, mais il faut que je sois un peu, tu vois.
Ok.
Parce que j'ai autant aimé le...
Donc, tu vas donner 3 étoiles aux 2.
Ouais, 3 étoiles aux 2.
3 étoiles à Stagnoli et 3 étoiles à Triple Frontier, ça fait plaisir. Ça, ça...
Ouais.
On remonte le score, c'est incroyable.
Ouais, ouais, c'est une bonne semaine.
Revenons aux news un petit peu avant de parler du dernier film de la semaine qui s'appelle Leto. Des news qui concernent le streaming, hein, on vient d'en parler, hein, Netflix. Bah, il faut savoir que Spielberg, il y a quelques temps, là, je crois que c'est en février, un peu avant les Oscars, il a fait un statement, comme on dit. Il a dit, oui, bon, moi honnêtement, un film qui a été réalisé pour la télévision, c'est un film de télévision. Et donc un film qui est réalisé pour le streaming, c'est un film de streaming. Et donc en gros, c'est pas un film qui peut être aux Oscars, tout simplement. Et c'est pas parce que t'es diffusé dans 4 salles à travers les États-Unis que tu peux être nommé, en tout cas, sur la liste des Oscars. Ouais. Propos un petit peu difficile, surtout qu'on sait tous que Spielberg est producteur de pas mal de films.
Oui.
Il a ses pieds dans pas mal de maisons.
Mais alors, même si certains l'ont lynché et puis qu'apparemment il n'aurait pas dit ça, oui. Sur le principe, c'est pas complètement faux dans le sens où, effectivement, il y a une distinction télé.
Bien sûr.
Et que bah, les films de télé, effectivement, ils vont aux Emmy Awards et pas aux Oscars. Sinon, tu peux faire plein d'exceptions. Tu vois, tous les films HBO, etc. T'as
oui.
Un truc un peu. Voilà.
Puis voilà, mais par exemple, un épisode de Columbo, ça peut durer 1h30. Est-ce que c'est un film, tu vois ? C'est ça aussi la question.
Oui. Donc, Spielberg a réalisé un épisode de Columbo d'ailleurs.
Je crois que c'est le livre témoin.
Ah, ça, je ne sais pas.
Voilà. Ah ouais.
Mais après, si on veut être un peu correct, un film est un film.
Oui. Surtout quand tu sais que certains réalisateurs vont dans des festivals avec des films tournés sur iPhone, tu vois ce que je veux dire.
Exactement.
Donc c'est un peu...
Mais y a, alors après, enfin voilà, Roma est un film Netflix, donc techniquement, c'est pas un film de cinéma. Mais il y a évidemment plus de cinéma dans tout Roma, que, enfin même dans 5 minutes de Roma, que dans plein de films qui sortent au cinéma. Bref, c'est un long débat et je pense qu'il n'y aura jamais le mot de la fin parce qu'il y a plein d'interprétations possibles, ça dépend de la sensibilité de chacun et de l'expérience de chacun.
Mais donc c'est...
Donc c'est compliqué. Moi, pour le principe, je comprends quand même que ces films n'ont pas forcément... Enfin, que ceux qui ne sortent pas en salle n'aient pas accès aux Oscars. Mais c'est compliqué.
Oui, bon, cela dit, forcément, depuis, hein, Spielberg est revenu sur ses paroles, il dit que c'est pas lui qui a dit ça, ou en tout cas que le journaliste a un peu extrapolé sur base de propos. C'est Jeffrey Katzenberg qui est le vice-président de DreamWorks.
Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, parce que Spielberg est plus fin que ça dans son discours que simplement dire « la télé, c'est la télé, le cinéma, c'est le cinéma ».
Ça m'étonne de quelqu'un qui est producteur, qui a une main très longue à Hollywood, et qui connaît tout le monde et qui a des amis partout, de se mettre justement des gens sous le dos. Enfin, je pense pas que c'est son style. C'est plutôt quelqu'un de diplomate, quoi. Hein. Donc ça m'étonne qu'il casse du sucre. Surtout que aujourd'hui, il faut être fou pour être un acteur, un producteur, un réalisateur qui va cracher dans la soupe de Netflix, puisque comme on le voit, ils peuvent produire des films et être du côté des réalisateurs, quand c'est le cas de J.C. Shandor, comme on vient de parler, ou Cuaron pour Roma. Voilà, sans Netflix, il n'y aurait même pas eu ces films-là. Donc je pense que c'est un peu refuser l'évolution et l'innovation que de cracher sur Netflix de manière générale dans le monde du cinéma. Maintenant, est-ce qu'il est trop tôt pour les mettre dans des récompenses comme les Oscars ou Cannes, hein, c'est le même débat. Ça, je ne pense pas. Pour moi, un film est un film, il devrait pouvoir jouer sur les deux tableaux.
Le débat Cannes-Netflix, on n'a pas encore fini d'en entendre parler.
Quelque chose qu'on va reparler dans pas longtemps.
Ça. Petite parenthèse pour Cannes. Je ne sais pas si tu as vu passer ça sur Twitter notamment, même si maintenant ça a été repris par pas mal de sites de cinéma. Tu connais peut-être le compte Twitter, le stagiaire des affiches, tu sais, ce gars qui décrypte entre guillemets les affiches souvent dégueulasses des films.
Oui, d'ailleurs, il a fait une comparaison entre l'affiche d'Aladin et l'affiche de Star Wars de Rêver de la Force.
Ah, j'ai pas encore vu.
C'est la même affiche.
D'accord, ça a l'air très drôle. Oui. Mais j'irai voir. Bref, il se fait que c'est quelqu'un que je connais qui tient ce truc. Et il a suggéré sur Twitter un rêve que Alain Chabat et Gérard Darmon dansent la carioca à Cannes. Et puis le site Sens Critique a repris un peu cette vanne et a lancé une pétition pour que ça se fasse. Et du coup. L'info a été reprise sur Première, sur plein de sites. Pierre Lescure, qui est le président, a réagi directement
à une
personne. Et j'ai vu que le compte officiel du Festival de Cannes avait tweeté tout à l'heure, il y a 2-3 heures, disant « Attendez de voir un peu, mais est-ce que ça se fera ou pas ?» En tout cas, ça serait très drôle.
Ça serait très drôle. C'est pas les 25 ans, c'était de la peur ?
Quelque chose comme ça,
ouais. Je pense qu'on fête l'anniversaire cette année, donc pourquoi pas.
Donc bref, n'hésitez pas à aller regarder cette pétition juste pour le fun et aller la signer,
c'est
même si...
sympa.
Voilà, je pense que ça sent bon et ça serait très drôle de se dire qu'une vanne sur Twitter... Dépoule sur
C'est une belle idée.
Sur un truc pareil. Mais voilà. Mais ça serait très cool.
De Twitter.
Ça serait très très cool. Voilà. Parenthèse fermée.
On continue notre discussion sur le streaming puisqu'on a des nouvelles de Disney+. Disney+, c'est la plateforme officielle de Disney, forcément, qui va contenir tous les catalogues de séries, films de Buena Vista et donc du coup de productions Marvel. Enfin, vraiment l'entièreté du catalogue Disney. Donc, à mon avis, ça va être le service de streaming à avoir. Hein, si vous êtes en plus, si vous avez des enfants, alors là, c'est
mais
c'est incontournable.
Vu que Disney+, ça va être catalogue Disney. Mais est-ce que ça veut dire Fox, quand la Fox sera dedans.
Le jour où, oui.
Mais Disney, ça veut dire Star Wars.
Oui.
Et toutes les séries, on le sait. Ça veut dire tous les Pixar.
C'est immense.
Ça fait beaucoup de choses.
C'est immense.
Plus ABC.
Tout à fait.
La chaîne de télé. Donc, ça fait beaucoup de choses, Disney.
Ils ont énormément de contenu. Et donc, c'est clair que ça va être difficile d'être en face. Hein. Je pense que Netflix a du souci à se faire. Surtout quand on sait qu'ils ont annulé toutes leurs séries Netflix... Punisher, tout ce truc-là, tout est annulé parce que ça va migrer entre guillemets sur Disney+. Ouais. Peut-être d'une autre manière, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il y a du très très lourd chez Disney qui se prépare. Et petite nouvelle pour nos amis belges qui nous écoutent, parce que vous nous écoutez quand même un petit peu, même s'il y a pas mal de Français. Le service va être lancé aux Pays-Bas avant d'être lancé aux États-Unis. Alors, en général, quand un service est lancé aux Pays-Bas, on vise plutôt le Benelux.
Ouais.
Parce qu'on teste en français, on teste en irlandais, on essaie de voir justement les... Parce que, pour nos amis français qui nous écoutent, la Belgique est souvent utilisée, et les Pays-Bas, pour des tests de lancement de produits. Beaucoup de marques démarrent chez nous, la pharmacie en premier.
Oui, ce sont des petits...
L'industrie pharmaceutique.
Des territoires intéressants, pas trop petits, pas trop grands.
Exactement, 10 millions de personnes, c'est un bel échantillon pour tester un lancement.
Ouais.
Et donc du coup, c'est vrai qu'ils aiment bien lancer chez nous des concepts, des idées et tout, donc on... Ce serait pas étonnant, en effet, de voir que Disney lance Disney+ chez nous, dans un premier temps, surtout qu'on a des bureaux Disney à Bruxelles et une équipe assez grande qui s'occupe de gérer Disney au Benelux depuis Bruxelles. Donc voilà, m'étonnerait pas qu'il se passe quelque chose dans notre coin. Ce serait sympa, en tout cas, d'avoir cet accès-là avant tout le monde.
Tout à fait, tout à fait.
Pour donner un petit feedback sur la plateforme. Ça bug, ça marche pas, c'est nul, il y a des pubs.
La nouvelle série... Star Wars,
boom, Star Wars avant tout. Non, je crois qu'ils vont attendre que ce soit partout avant de lancer un truc pareil. Ils vont d'abord commencer avec le back catalogue. On va se taper Lilo et Stitch. C'est même pas.
J'allais dire, dis pas du mal de Lilo et Stitch, mais j'ai jamais vu en fait.
C'est même pas Disney, ça, si ? C'est pas DreamWorks ?
Non, c'est Disney. Okay.
Bref, parlons du dernier film de la semaine, qui aurait pu être le premier, hein, cela dit.
Oui.
Leto, un film de Cannes, un film russe hein, à la base, qui parle en fait, qui se passe dans les années 80, donc en plein pendant encore le bloc soviétique, hein, c'est pas fini à ce moment-là, à Leningrad, où en fait il y a un resell de disques, entre autres, qui se passe parce qu'il y a des CD qui ne sont pas spécialement admis, hein, des CD de rock ou David Bowie, entre autres, Lou Reed, etc. Et il y a des jeunes musiciens. Qui sont un peu en train de jouer là-bas, mais un peu en cachette. C'est un peu ça le principe du film. C'est toute cette espèce de révolution culture pop années 80, etc., qu'on ne vit pas de la même manière dans le bloc de l'Est, mais certains jeunes se retrouvent peut-être pour avoir des soirées ou des moments d'écoute entre eux. C'est un peu ça, concrètement, le film. Enfin, c'est même très ça.
Oui. Alors, c'est compliqué de résumer un film pareil, parce que c'est pas juste un film sur... Enfin, c'est pas juste ce que tu viens de décrire, ça va bien plus loin que ça, en fait. C'est un film sur la jeunesse russe, plus que sur la scène musicale russe, en fait.
Ils utilisent la culture pop que nous, on connaît, pour nous montrer comment les jeunes l'ont vécu là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait.
C'est un contexte, c'est plus qu'un contexte, hein, mais c'est même un des acteurs principaux du film, en fait, d'une certaine façon. Parce que tout est basé sur ce monde. Donc, on va avoir des jeunes qui vont se rencontrer et qui vont développer des choses musicales ensemble. Ça, c'est l'idée générale. On parle de personnes qui n'ont pas forcément accès à tous les styles de musique, vu qu'on est dans le bloc de l'Union soviétique, mais qui, voilà, marché noir, etc., se font quand même une belle culture musicale, si je puis dire. Et donc, ce sont des gens qui
Grave.
carburent à T-Rex, à Lou Reed, à Iggy Pop, enfin voilà, tous ces trucs-là, Talking Heads, tous ces groupes, tu vois. Et donc voilà, on va avoir des personnages qui vont lui évoluer dans cet environnement. On va s'intéresser à leurs relations entre eux, surtout. Il y a vraiment plusieurs clés de lecture possibles pour le film. Il y a plusieurs couches. Tu peux voir ça comme une histoire d'amour un peu compliquée, parce qu'il y a ça. Mais tu peux voir ça comme étant un film sociétal sur la jeunesse russe à cette époque. Et avec ce contexte musical, underground, etc. Donc il y a vraiment plein de choses possibles. Tu peux trouver ton compte selon différents niveaux, en fait, si on veut. C'est un film qui a été filmé en noir et blanc et qui a des petits moments de folie, comme ça, parce qu'il y a des petits moments comédie musicale, d'une certaine façon.
D'accord,
Où
carrément.
il te chante du Talking Heads. Dans un bus, c'est vraiment en mode
Ouais.
comédie musicale. Mais moi, qui suis vraiment pas très fan de ce genre de procédé, des comédies musicales en général, j'ai trouvé ça assez génial dans ce film parce que c'est une espèce de bouffée d'air frais dans autre chose. Tu vois, c'est un
Ouais.
côté très décalé, très.
Ça pour pas rester que dans le truc un peu, tu vois, dramatique, les
Ouais.
jeunes en Russie,
C'est ça, c'est ça.
voilà.
Il y a ce côté un peu joyeux, décalé, qui fonctionne super bien et qui est très cool à regarder parce que visuellement, alors. J'oserais plus l'affirmer à 100%, mais il me semble qu'à ces moments-là, il y a un peu de couleur, il y a des choses graphiques un peu différentes. Je dis si je me souviens bien, parce que je l'ai pas revu depuis Cannes, c'était au mois de mai dernier. Donc, on est au mois de mars,
Ça
hein.
date.
Ça en fait 10 mois. Mais j'irai le revoir avec grand plaisir, par contre. Et donc voilà, c'est un film qui a du coup fait assez forte impression à Cannes, parce que. Très très particulier dans son approche,
Avec un
dans
message quand
son
même, ouais.
histoire, de par sa forme. Et du coup, ça a beaucoup plu quand même à la critique à ce moment-là. Ça a beaucoup plu au public, je pense. Je sais pas du tout les scores qu'il a fait dans les pays dans lesquels il est déjà sorti, parce qu'il sort chez nous maintenant au mois de mars, non, au début avril, je pense.
Tu
Mais
parles
non,
des
non, enfin maintenant, pardon.
scores box office
Mais.
ou
Mais je veux dire, je sais pas les scores qu'il a fait. Là, on est oui au box office, mais
j'ai pas compris.
on est des mois et des mois après ici. Donc je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense que si le public belge attend un petit peu quelque chose de différent, c'est l'occasion parce que c'est bien foutu et c'est bien d'encourager un peu le cinéma russe. On n'a pas beaucoup de films russes qui sortent chez nous. Et on parle quand même de Kirill Serebrennikov, donc
Non.
c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a Bon, ça devient presque un habitué de Cannes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui. Bah, on va pas lancer ce débat-là, mais
Non.
c'est quelqu'un qui n'a pas toujours voix au chapitre en Russie. Il est quand même assigné à résidence, etc. Donc, parce qu'il y a eu, je pense, des soupçons d'évasion fiscale ou quelque chose comme ça. Mais tu sais que sous le régime Poutine. La culture, enfin, dans
Ouf.
tous les, je vais dire dans toutes les dictatures, la culture est une des premières choses qui est,
Un peu maîtrisé, on va dire ça comme
voilà,
ça, gentiment.
c'est par là qu'on commence. Hein. Donc,
Avec la
alors je ne dis
presse, bien
pas que la
sûr.
Russie est une dictature. Bref, on va pas se lancer dans ce débat-là. Mais voilà, c'est pas bien
Un peu quand même.
de pas plaire au
C'est ça,
pouvoir, si je puis dire. Hein. Non,
Oui.
j'exagère. Non, la Russie n'est pas une dictature, mais.
En tout cas, une belle proposition, et c'est un peu sans doute la proposition la plus arty, la plus canoise, ça c'est sûr, de la semaine. C'est
Certainement.
clairement un film qui est particulier, comme tu le disais, qui va plaire aux amateurs du genre. Du coup, tu lui donnes quoi à l'étoile? 3 étoiles également?
Bah oui.
Voilà, la semaine passée c'était 2 étoiles, maintenant cette
Cette
semaine-ci
semaine, c'est
c'est
la semaine des
trois.
trois, bah oui.
Alors, je propose qu'on passe en revue, du coup, les sorties de cette semaine, dont on a parlé dans cet épisode-ci. Stan et Oli, c'était 3 étoiles, et non pas 2 étoiles. On s'en excuse. Hein. Désolé, John C. Reilly, Steve Coogan et les autres. Donc, 3 étoiles. Leto, 3 étoiles également. Destroyer avec Nicole Kidman et Sebastian Stan. Ça, c'est un film qu'on n'a pas vu.
Non.
J'ai entendu des bons échos de la part de nos camarades américains sur ce film-là, donc pourquoi pas. C'est un film d'action, un film thriller également. Elle en fait pas mal, hein, Nicole Kidman, des films comme ça, elle enchaîne un peu. Coureur, un film belge dans ce cas-ci. Un film de Kenneth Merken avec Niels Willaert, à mon avis. Du coup, c'est un film néerlandophone, malgré le nom.
C'est un film flamand, tout à oui. fait.
Cœurs ennemis, The Aftermath avec Keira Knightley. Elle aussi, hein, elle a un agent un peu particulier. Je pense qu'ils ont le même agent avec Idris Elba. C'est que Keira Knightley, elle fait un peu des trucs...
Ouais. En costume déjà.
Ah, tu es là, toi ? Oui, oui, ouais. C'est pas en costume, c'est une pub alors. C'est
ouais.
Et dans une pub, il y a un peu un costume aussi. Escapada, un film pardon, belge aussi, décidément, avec non pareil, c'est bizarre. Coureur, oui. Escapada, de Sarah Hirt. Tu l'as pas vu ? Moi non plus.
Ah non, mais je n'ai rien vu d'autre cette semaine. Donc.
Mon bébé, un film de Lisa Aswanos avec Sandrine Kiberlain.
C'est celle qui a fait LOL, hein, pour rappel.
Celle qui a fait LOL, avec une affiche très similaire.
Et Dalida aussi, l'an dernier, ouais. Il y a 2 ans.
Affiche très très similaire. Mon bébé, oui. Écrit en rose et tout.
Et je pense pas que ce soit très bien.
Bah, mais LOL, ça va, là, ça va encore.
LOL, c'était relativement sympathique.
Sympathique encore.
Après...
Je crois que LOL, d'ailleurs, c'est le plus gros succès en France.
Elle a fait son remake, d'ailleurs, aussi, aux États-Unis.
C'est le plus gros succès en France, LOL, j'ai vu, pour un film réalisé par une femme.
D'accord.
Voilà. C'est ça qu'il faut battre. Mesdames, c'est ça qu'il faut battre. Sachez-le. Lost Highway de David Lynch en version restaurée qui sort sur quelques salles en Belgique.
Alors, je l'avoue, je ne l'ai jamais vu.
Bah voilà, c'est l'occasion où jamais d'aller voir.
Mais j'ai toujours voulu faire David Lynch dans l'ordre chronologique des sorties de ses films. Sinon, je pense que c'est compliqué d'aborder Lynch. C'est quelqu'un de très torturé, à mon avis. Hein.
Ça, pas qu'un peu. Alors, je ne vais pas prononcer ce nom. Enfin, je vais devoir le faire. Maui Nui.
Sans doute.
Au cœur de l'océan, mon pays. Ok, c'est pas l'océan de mon pays. Non, c'est pas grave. L'océan, mon pays. Un documentaire dans ce cas-ci. Voilà, documentaire belge dont on ne sait pas beaucoup plus. Et dernier film de la semaine, alors là, c'est Dragon Ball Super Broly. Un film, du coup, bah, animé, hein. c'est pas une surprise. D'action. Enfin, vous connaissez Dragon Ball Z, je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit.
Dragon Ball Z.
Ok. Donc ça c'était les sorties de cette semaine au cinéma. N'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast si vous êtes écouté jusqu'ici encore une fois. Merci beaucoup pour votre écoute.
Ouais.
On passe un tout petit peu en revue la semaine prochaine quand même. Hein. On fait ça à chaque fois maintenant.
Il y a un petit film attendu quand même la semaine prochaine.
Rien de spécial. Tu parles de Hell Hole, le documentaire belge sur... Non ?
Non, c'est pas un documentaire.
C'est un drame.
Oui. Qu'on verra peut-être... On va essayer de le voir d'ici là.
Plusieurs films la semaine prochaine, dont Us, le nouveau film de Jordan Peele. La suite, pas la suite du tout de Get Out, mais en tout cas son second film après l'excellente surprise de Get Out. Tu as vu Us, tu ne peux pas en parler pour l'instant.
Mais non, il y a un truc bizarre. Il y avait un embargo. Nous, on a un embargo en Belgique jusqu'au 19 mars. Le reste du monde n'a plus d'embargo. On va savoir pourquoi.
Oui, c'est ça.
Donc, moi, techniquement, je ne peux pas vous dire ce que j'ai pensé du film.
Mais,
je l'ai vu.
On en parlera bien entendu la semaine prochaine avec d'autres films qui sortent, comme Arctic par exemple.
Ben oui, Mads Mikkelsen qui se gèle les couilles.
Après Liam Neeson, en voilà un deuxième, pour d'autres raisons sans doute.
Film que j'ai vu aussi à Cannes et que je n'ai pas revu depuis. Donc il va falloir plonger dans ma mémoire pour vous en parler.
Bien loin, bien loin. Et voilà.
Puis il y a High Life de Claire Denis avec Robert Pattinson.
Robert Pattinson, donc voilà.
Et Juliette Binoche. Bref, il y a quand même pas mal de choses.
Il y a de quoi faire.
Oui, on n'a pas encore vu grand chose, mais on va rattraper pas mal de choses aussi.
Comme d'hab. On va rattraper ça.
Il n'y a pas de souci.
À la one again.
Donc voilà.
On vous remercie en tout cas pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine.
Moi je serai là, toi aussi.
Moi aussi.
Ça marche.
Des bisous. Ciao.
Des bisous.